Et vous êtes toujours sur Média. On fait un zoom aujourd'hui sur l'un des cancers les plus fréquents chez les femmes. Comment en reconnaître les premiers symptômes afin de le dépister de façon précoce et donc de se donner les chances de s'en sortir indemne? On parle aujourd'hui du cancer du col de l'utérus et avec nous pour en parler, professeur Ali Tahri, bonjour.
Bonjour Magali.
Vous êtes professeur en oncologie, on ne vous présente plus.
Merci
de répondre présent à notre invitation sur Média.
Avec plaisir, c'est toujours un plaisir.
Alors d'abord, les tumeurs ou les cancers du col de l'utérus, comment les définir ?
Alors, le col d'utérus, c'est la partie terminale de l'utérus qui va être en jonction avec le vagin. Et c'est une région qui est très très sensible chez les femmes, qui connaît des modifications au cours de la vie génitale de la femme. Et c'est un cancer, on en parle parce que c'est un cancer qui est très très fréquent. C'est le deuxième cancer de la femme après le cancer du sein.
Professeur Tahri, est-ce qu'il en existe une ou plusieurs formes ?
Il en existe plusieurs. C'est une maladie qui est évolution lente et qui va être au début un état précancéreux et par la suite il va évoluer à bas bruit jusqu'à devenir un cancer invasif voire métastatique, d'où l'intérêt de la sensibilisation qu'on fait maintenant.
Alors justement, est-ce qu'il faut attendre les premiers symptômes pour aller consulter ou est-ce qu'il faut le faire spontanément sans forcément avoir de symptômes?
Justement, excellente question Marim. Ça, l'intérêt de la sensibilisation ce matin Marim, c'est qu'il ne faut pas attendre les premiers symptômes dès les premiers rapports sexuels, ce qui correspond au mariage. Normalement, chaque femme doit consulter son gynécologue une fois par an qui va lui réaliser un frottis cervico-vaginal pour voir justement l'état de ce col utérin. Alors comment ça se passe ? C'est pas du tout agressif, c'est l'équivalent d'un gros coton-tige que le gynéco va introduire au niveau du col utérin qui va racler cette partie-là, toutes les parties du col, les cloisons vaginales. Et par la suite, ce prélèvement-là, on va l'envoyer chez l'anatomopathologiste qui va nous dire l'état du col utérin. Est-ce qu'il y a un état normal, un état inflammatoire ou il y a des cellules suspectes? L'avantage dans ce type de cancer, et c'est pour ça qu'on insiste sur la prévention et le dépistage, c'est que l'évolution est très très lente. Et donc on peut découvrir dans la majorité des cas ce cancer-là à un stade intraclinique avant l'apparition des signes cliniques et donc le traiter avant qu'il passe à l'état de cancer.
D'accord. Alors avant de parler de traitement, professeur Tahri, j'aimerais revenir sur les femmes à risque. Quelles seraient donc ces personnes à risque ?
Alors les facteurs du risque du cancer du col utérin, c'est surtout viral. C'est un virus qu'on appelle Human Papillomavirus, HPV, c'est-à-dire en abréviation. Et il y a surtout deux sérotypes qui sont cancérigènes, qui sont le 16 et le 18. Et c'est un virus qui passe par voie sexuelle. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours des rapports sexuels qui ne doivent pas être à risque, c'est-à-dire de la prévention, l'usage du préservatif, et j'en passe, parce que c'est une maladie sexuellement transmissible.
D'accord.
Et donc quand on a ce virus-là, il peut donner une inflammation du col utérin et par la suite dégénérer sur un état cancéreux. Et ce virus-là n'est pas responsable que du cancer du col utérin, on a le cancer de l'anus, le cancer de la gorge, plusieurs cancers sont liés à ce virus-là. C'est-à-dire ce virus-là, il y a d'autres facteurs, mais beaucoup moins importants, c'est-à-dire comme la prise de certains médicaments, comme le tabac, qui est aussi incriminé, ou comme les maladies, autres maladies sexuellement transmissibles, notamment le HIV, qui donne une immunosuppression et donc favoriser davantage le HPV. Mais le facteur de risque principal, c'est ce fameux virus.
Très bien. Alors, comment est-ce que le diagnostic se pose, professeur Tahri ?
Alors, le diagnostic, on le pose exclusivement par voie histologique. Mais avant le diagnostic histologique, il y a des signes cliniques. Et malheureusement, encore chez nous, et c'est pour ça que ce cancer est encore fréquent, c'est que le dépistage ne se fait pas par le frottis régulièrement chez tout le monde, malheureusement. Et donc, les femmes commencent à présenter des signes cliniques qui sont des métrorragies. C'est quoi les métrorragies ? C'est des saignements gynécologiques en dehors de la période des règles. Des leucorrhées, c'est-à-dire des pertes. Les femmes ont des pertes, parfois jaunâtes, parfois brunâtres, parfois nauséabondes. Et parfois, on a des douleurs pelviennes, des douleurs menstruelles. La femme va consulter chez le gynécologue et malheureusement, il va trouver une grosse tumeur au niveau du col utérin qui va biopsier, enlever un petit morceau. Mais là, on n'est plus dans le dépistage, on est dans le diagnostic. certes parfois même par 10, et cette biopsie va nous révéler qu'il existe malheureusement un cancer du col de l'utérus.
Parfait. Alors, en termes de traitement, professeur, comment ça se passe?
Alors, le traitement, encore une fois, ça dépend du stade. Et si on fait la sensibilisation avec toi-même, c'est justement pour ne pas arriver à des traitements lourds et inefficaces. Et pour rester dans des traitements qui sont très légers et efficaces à 100%, d'où, encore une fois, l'intérêt de réaliser ce frottis régulièrement chaque année. Vraiment, c'est un truc pas du tout méchant. Les deux dépistages qui sont les plus c'est-à-dire productif en cancérologie chez la femme, c'est l'échomammographie pour le sein et le frottis dans le col utérin. Puisque les gens, on voit qu'on parle énormément de choses, ils disent qu'on ne peut pas faire tout, c'est beaucoup, et on n'a que deux. On n'a pas mille. Il y a l'échomammographie pour le sein et le frottis cervico-vaginal, comme j'ai dit, très très simple et basique. On fait même plusieurs campagnes dans des milieux ruraux parce que c'est vraiment très très rentable point de vue productivité, point de vue de guérison. Alors, quand on a un état précancéreux, on fait un traitement antibiotique. On a fait un frottis, on a trouvé un état inflammatoire, on fait un traitement antibiotique et on refait un frottis. S'il n'y a plus rien, on arrête là. C'est traité. C'est guéri.
D'accord.
Donc, on n'aura plus de cancer.
D'accord.
Et on a un état précancéreux, ce qu'on appelle un CIE, c'est-à-dire une néoplasie intracervicale, c'est-à-dire la tumeur est là, mais elle est à un stade très débutant. Mmh. On peut faire ce qu'on appelle une colonisation, c'est-à-dire on enlève une partie du col utérin qui est atteinte.
D'accord.
Et on s'arrête. Il n'y a ni chirurgie de tout le col, ni chimio, ni radiothérapie, rien du tout. Et c'est des traitements efficaces à pratiquement 100%. Si on a des cancers plus avancés, alors là, on passe à des chirurgies complètes, on doit enlever tout l'utérus, tous les gongluants, les paramètres, on doit faire de la radiothérapie par la suite. Parfois, malheureusement, on a des cas métastatiques, on en voit, on passe à la chimiothérapie, à la thérapie ciblée. Donc, il y a des traitements très très lourds, est beaucoup moins efficace que les stades initiaux dont on a parlé. Et il y a un truc très important, et je profite de mon passage pour sensibiliser toutes les familles, c'est la vaccination. Là, ce qui est en vogue, c'est la vaccination anti-Covid, mais il y a la vaccination des jeunes filles avant le premier rapport sexuel, c'est-à-dire avant le contact avec ce fameux virus de l'HPV. Et c'est une vaccination anti-HPV qui est sûre et qui est très efficace. Il y a des études maintenant mondial qui montre pratiquement une réduction de risque de ce cancer de plus de 90%. On vaccine les jeunes filles de 11 à 14 ans ou 11 à 15 ans et il y a deux types de vaccins qui existent sur le marché et ça existe. Et à ce moment-là, on réduit chez ces filles-là le risque du cancer du col d'utérus. Donc, comme je vous ai dit, ce virus donne aussi d'autres cancers, même chez les hommes. Donc, dans certains pays, on vaccine même les garçons pour réduire justement cette infection par ce virus-là et le risque de dégénérescence maligne liée à ce virus.
Donc on ne le répétera jamais assez. Bien évidemment, le dépistage précoce, c'est très très important là également. Et puis également, ce vaccin dont on ne parle pas forcément souvent, et vous faites bien d'en parler, professeur Tahari.
Oui, effectivement, il y a même, c'est-à-dire des réflexions qui sont faites au Maroc pour rendre ce vaccin obligatoire chez les jeunes filles, tellement l'intérêt est majeur. Parce qu'il faut savoir que s'il y a quelqu'un qui est infecté, il va certainement infecter d'autres personnes avec qui il y a des rapports sexuels. Et donc, ce virus-là dissémine d'une manière assez importante. Et si on arrête l'infection chez les jeunes personnes, donc ils ne seront pas infectés parce qu'ils sont immunisés. Et donc, non seulement ils ne sont pas contaminés, mais ils ne vont pas contaminer leurs partenaires.
Professeur Ali Tahari, je rappelle que vous êtes professeur en oncologie à Marrakech. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Médias.
Merci.
Et c'est un entretien réécoutable, évidemment, sur notre site médias.com.